Mode 2022, Michel Bonnet. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est peut-être un peu exceptionnel, un peu difficile, sur la relation de Corde avec Raymond VII. Habituellement, on pense que Raymond VII a décidé de fonder une Bastide, il a écrit une charte, et puis basta, ça continue. Mais plus si on étudie dans le détail la vie de Raymond VII, on se rend compte que Corde a tenu une place importante tout au long de la vie de Raymond VII. Et c'est cela que je voudrais essayer d'évoquer aujourd'hui. Parce que ça peut nous dire quelque chose, même pour nous aujourd'hui. En tous les cas, ça peut nous faire connaître davantage un des grands politiques de cette époque, ce grand politique qui était Raymond VII. Vous le savez, on en a déjà parlé, en fait, Corde se trouve véritablement au milieu de la vie de Raymond VII. Hein. 1222, il a 25-26 ans, il va mourir à 50 ans, vous voyez, on est pile au milieu. Bon, ça c'est tout à fait par hasard, c'est pas grave, mais n'empêche, c'est un élément important à ne pas oublier. Et justement, cette place centrale, il y a l'avant Corde, les années qui ont amené Raymond VII à fonder Corde, et puis une fois que Corde a été fondée, les années qui ont suivi la fondation de Corde jusqu'à la mort de Raymond VII. On a là, c'est intéressant de voir Raymond VII dans cette perspective. Comme vous le savez, le point de départ de l'évolution de la pensée de Raymond VII, c'est le siège de Beaucaire, la bagarre, la lutte avec Simon de Montfort, après le concile de Latran. Et jusque-là, il avait été éduqué avec les troubadours, dans le monde des cours de Plantagenet, de Raymond VI, son père, enfin, il connaissait pas bien la vie quotidienne, la vie ordinaire des gens du comté. Et il va se retrouver à Beaucaire, comme vous le savez, donc enfermé dans les murailles de Beaucaire, assiégé par Simon de Montfort, et cela pendant plusieurs mois. Or, il va sortir de là deux nouvelles pensées, deux convictions, une double conviction extrêmement importante qu'on retrouvera à la base de Corde et qu'on retrouvera tout le long de sa vie. Il va découvrir la place de la convivialité dans la population, alors que jusqu'à maintenant, il connaissait pas la population, jusqu'à Beaucaire, il connaissait pas la population, il vivait entre vassaux, entre chevaliers, avec dans la cour de Raymond VI. Hein. Donc, convivialité une marque de la population, et le deuxième, la résistance. La convivialité, il faut se rendre compte que le périmètre de Beaucaire, du petit village de Beaucaire, c'est l'équivalent de notre cité en haut de Corde. Hein, c'est pas très grand. Hein, c'est le plateau du Pêche de Mordagne. Hein, mais dans la plaine, d'accord. Mais donc, là, il est enfermé, il peut pas en sortir. Et il va être là avec une population qui a quasiment doublé. Doublé, pourquoi? Parce que il y a des tas de seigneurs qui sont venus aider Raymond VII à tenir le siège. Il y a des gens d'Arles, des gens surtout d'Avignon qui viennent pour le commerce, pour porter de la nourriture, etc., pour aider. Il y a tout le monde des bateliers du Rhône qui sont là. Bref, ça fait beaucoup de monde. Et donc, les gens sont les uns sur les autres. Si un jour vous avez le temps, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, allez vous faire le tour des rues de Beaucaire en ayant la carte du temps de Raymond VII, vous verrez que c'est vraiment petit. C'est vraiment petit. Donc, on partage tout. Voilà ce que ça veut dire. Et on est les uns sur les autres. Le voisinage est à la base de l'existence quasi quotidienne. Et le voisinage, là, c'est quoi? C'est d'abord manger et boire. C'est le premier élément de la convivialité. Et donc, c'est le premier ciment de la société. Les gens ne mangent pas dans leur coin, sur une table, et puis s'envoient un message quelconque. Non, on est tous ensemble, on rit ensemble, on mange, on boit, et si on manque de quelque chose, on en manque ensemble. Et donc là, c'est une nouvelle personne qui se met en place dans Raymond VII, c'est-à-dire quelqu'un qui est lié avec la population, comme la population forme un seul bloc. Il y a donc cette rencontre quotidienne, mais répétée pendant 3 mois, c'est quand même, faut le faire, ne pas sortir du haut de la place de la Bride ou de la place de la Halle, là-haut, pendant 3 mois, on connaît vite les pavés entre la porte des Ormeaux et les autres. Hein. C'est important. Et là-dedans, dans cette population, il faut bien se rendre compte que les femmes tiennent une place extrêmement importante. Importante parce que, bon, d'abord, la moitié de la population, en principe, à peu près la moitié de la population, ce sont des femmes, mais en plus, elles ont une place importante parce que, c'est elles, ce sont les femmes qui font marcher la machine familiale, je dirais, la cellule familiale, que ce soit à travers la nourriture, les repas, le soin des enfants, le soin des habits, etc. Mais le travail aussi. Dès qu'elles ont une minute, elles prennent la quenouille et hop, on file de la laine parce qu'il faut faire des habits. Et puis dès qu'on peut, on utilise le kermès pour teindre ça et pour Raymond, tout ça, cette convivialité, là, c'est une force énorme qui va permettre de durer. On s'arrête une minute.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
T'es beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau. Comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux, qui se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme une rengaine, quelques notes à peine, qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. À présent, j'ai beau me dire qu'au fond c'est mieux, même si c'est encore douloureux. Pas de recoin silencieux, c'est beau parce que c'est orageux. Avec ce temps, je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. C'est comme une rengaine, quelques notes en peine qui forcent mon cœur, qui forcent ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène, sans armée, sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre à présent.
2022, Michel Bonnet. Je disais donc que pour Raymond VII à Beaucaire, il a vraiment changé parce qu'il a découvert cette convivialité qui existait entre des gens quand ils sont les uns sur les autres, obligés de vivre en voisins. Oui. Mais là-dedans, il y a un deuxième aspect qui est extrêmement important, c'est que ça ne se passe pas en une journée. Ça, c'est pas la situation d'assiégé, c'est pas du tout comme la situation d'un attaquant. Là, on est obligé d'être là en permanence. On est obligé de faire attention en permanence, jour et nuit. C'est pas l'assiégeant, l'assiégé qui décide quand on va attaquer, quand une attaque se fera sur une porte ou sur une muraille. Non. Donc il faut être prêt. À tout moment, c'est une situation permanente. C'est pas du tout du ponctuel comme les réunions de l'exil de tous les jours, dans les cours, etc. Quoi. Et cette résistance permanente, elle n'est pas du tout réservée aux soldats. C'est extrêmement important parce que c'est toute la population qui est en quelque sorte sur le pied de guerre, prête à répondre immédiatement à une montée des chevaux autour des remparts ou à une volée de flèches ou de boulets sur les maisons, et il faut réparer, il faut faire attention, il faut soigner des blessés, etc. Donc, il faut repousser les attaques s'il y en a qui ont réussi à grimper assez haut sur les remparts, et donc, il faut être là en permanence. Et ce mot de résistance, c'est ce qui fait la différence au niveau militaire entre l'attaque et le fait d'être assiégé, le fait de se défendre, le fait de résister. C'est une autre mentalité militaire qui se met en place et qui est basée sur le fait qu'il faut durer. Durer jusqu'à la fin du siège, c'est tout, quoi. Voilà. Or, pour durer, ce qui est évident pour Raymond VII, il le trouve, c'est que toute la population est là. C'est elle qui assure la durée. C'est elle qui résiste avec les vassaux de Raymond VII, avec les chevaliers, bien sûr. Mais l'important, c'est ce fait de pouvoir durer parce que on est ensemble. Donc, vous voyez, après l'expérience de Beaucaire, Raymond VII se retrouve avec une sorte d'être nouveau qui a surgi en lui, et se dire, si on veut faire quelque chose de valable, si je veux faire quelque chose de valable, il faut que je m'appuie à la fois sur la convivialité dans la population et sur l'aspect résistance à tous les coups durs qui peuvent arriver. Et donc, c'est avec cette mentalité-là qu'il va avancer vers 1222. On est en 1216 avec le siège de Beaucaire, et là en 1222, donc il y a des péripéties, des tas de choses, etc. Mais faut se rendre compte que tout d'un coup, 1222, c'est la mort de son père, et là, bon, eh bien, il devient je dirais totalement libre de son existence. C'est nouveau, parce que jusque-là, il était un peu coiffé par son père, qui voulait montrer qu'il était toujours le comte de Toulouse. Vous voyez. Donc là, il n'y a plus de comte de Toulouse. Et ce qui se passe, c'est que de suite, les consuls de Toulouse, disons les autorités locales, les seigneurs de la région, du Midi, etc., décident que Raymond VII, le petit Raymondette, comme on disait à l'époque, sera le nouveau comte de Toulouse. C'est normal, si on peut dire, mais c'est normal, oui et non, parce que officiellement, c'est le fils de Simon de Montfort qui est comte de Toulouse. Il est reconnu par l'Église, qui est la force numéro un de l'époque, surtout avec l'Inquisition qui se met en place. Et puis le roi de France qui vient défendre justement le comte de Toulouse, le fils de Simon de Montfort. Et il va Raymond VII va à ce moment-là se rendre compte qu'il faut bâtir, il faut rebâtir le comté de Toulouse sur des bases, disons, peut-être pas complètement nouvelles, mais en tous les cas, solides et renouvelées. Et ces bases, ça va être ce qu'il a appris à Beaucaire, je viens de le dire, c'est la convivialité, la résistance. Ça, c'est ce qui va être son projet pour le comté de Toulouse. Mais il ne peut pas aller sur l'ensemble du comté d'un seul coup, évidemment, parce que d'abord, c'est vaste, on est toujours en guerre, et puis il y a toujours des gens qui préfèrent être du côté des croisés que du côté des Occitans, vous voyez. Donc il faut faire attention, et il va décider de prendre comme premier terrain d'action, immédiatement, l'Albigeois. Ce qu'on appelle l'Albigeois à l'époque, bon, maintenant, vous êtes rodés à ça avec les émissions de CFM, hein, c'est tout ce qui est entre le Tarn et le Vior et l'Aveyron. Et donc, là, il va organiser l'Albigeois, et pour cela, il va créer un centre, ça va être Cordes, où un périmètre très petit, pas seulement petit, mais aussi bien, bien délimité par les parois, les falaises qui étaient à l'époque au sommet de Cordes, et puis par les fortifications qu'il va falloir mettre en place. Et donc, on est là sur une cité avec un périmètre bien fermé dans lequel les gens vont, à cause du voisinage obligatoire, et ils vont vivre petit à petit dans cette valeur qu'on appelle la convivialité. C'est-à-dire que ils vont répondre ensemble aux besoins de base, hein, manger, boire, s'habiller, avoir une activité économique, une petite activité commerciale, faire un travail, notamment le travail de tisserand. Voilà. Et donc là, on est là. Ce n'est pas une convivialité qui est décidée au sens strict du mot, qui est organisée en quelque sorte au jour le jour par le Seigneur. Non, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de la population du fait qu'elle est enfermée et qu'elle est obligée de vivre en voisin. Et donc les uns, il y a une dynamique qui se met en place lorsqu'on est ensemble à faire quelque chose ensemble. Et c'est ce qu'a découvert Raymond VII à Beaucaire, et donc c'est ce qui met en place ici, animé en particulier par ce qu'on appellera des consuls, c'est-à-dire quelques personnes qui sont chargées justement de soutenir cette animation de la convivialité à l'intérieur de la cité. On s'arrête un petit moment avant de passer à un deuxième aspect.
CFM Cordes, CFM, l'esprit rock.
In other words, we're cooking, right? That's what you're trying to say. We'll be right back.
Corde 2022, Michel Bonnet. Je disais que la convivialité qu'il avait appris à Beaucaire pour Raymond VII, c'était vraiment un élément capital, une base pour la fondation du nouveau comté qu'il était en train de préparer à travers la fondation de Corde. Il y a un deuxième aspect, c'est celui de résistance. Bon, là, c'est pas besoin de longues explications. Le fait de choisir un piton comme le Pêche de Mordagne, c'est déjà en soi un lieu de résistance. La construction d'une enceinte de fortification, c'est aussi une possibilité de résistance si jamais il y a un siège ou si une armée ou si des brigands venaient. On est là donc sur une conception de la cité qui va être permanente. On ne met pas des barrières pour empêcher des soldats qui viennent tout d'un coup d'arriver, de Millars ou de Monestier, vous voyez. Non, c'est de façon permanente, on met des murailles et Corde est un lieu où on va pouvoir résister, quoi qu'il arrive, dans la mesure du possible, bien sûr, alors que normalement, les gens, eux, l'habitude qu'ils avaient à l'époque, c'était qu'ils vivaient dans les petits hameaux autour de Corde, par exemple. Et puis, s'il y avait un danger, des brigands, des routiers, des soldats, etc., on se précipitait dans l'enceinte d'un château, dans une fortification, pour se protéger. Là, Raymond VII dit non, pas du tout, on vit dans les fortifications. Justement, on résiste en permanence. On est dans un lieu qui est un lieu de vie, mais un lieu de vie en résistance. Et c'est important pour cette époque-là, en 1300, parce que il faut que la population puisse résister non seulement à des attaques armées, mais aussi à la pression énorme de l'Église et de l'ambiance, disons, donnée par le roi de France, disons, qui était à la recherche de tous les déviants, de tous ceux qui n'étaient pas très contents avec ce qui se passait, et bref, et qu'on appelait hérétiques. Ils n'étaient pas plus hérétiques que vous et moi, enfin, je ne sais pas, mais ils étaient pointés par le pouvoir, enfin, le pouvoir de l'Église. Un peu comme aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est gilet jaune qu'on est automatiquement un révolutionnaire, un terroriste. Vous voyez, c'est pas du tout ça. Donc, ce que il faut bien se mettre dans la tête, c'est que Raymond VII, quand il construit Corde, il continue d'aller sur sa lancée, c'est-à-dire tout faire pour que la convivialité soit le cœur même de la vie des gens et que ce soit dans un esprit de résistance et non pas d'attaque. Il ne s'agit pas de partir, comme on le faisait habituellement, d'un château pour aller attaquer un autre endroit. Non, on résiste si on est attaqué. Et ça, c'est à partir de 1222. C'est le cœur de la fondation de Corde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la suite de la vie de Raymond VII et comment, justement, ces valeurs qu'il a mis à la fondation de Corde, on va les retrouver tout au long de sa vie. Et Corde tient là-dessus une véritable place exceptionnelle. On sait que après 1222, la grande date capitale dans l'histoire de Raymond VII, c'est 1229, le traité de Paris, où il est reconnu comte de Toulouse par le roi de France et par l'Église, et où, en même temps, évidemment, il faut qu'il paye la facture avec pas mal de difficultés, etc. Et dans ce traité de Paris, l'idée de base de Blanche de Castille et des grands seigneurs qui faisaient le conseil du roi à l'époque, sans parler de l'Église, c'est d'arriver à ce que Raymond VII n'ait aucune puissance militaire à sa disposition. Et donc, dans le traité de Paris, on lui demande de supprimer les remparts des grandes villes, notamment Toulouse, sa capitale, donc plus moyen de se battre, si on peut dire, à l'époque, supprimer des tas de fortifications, démolir des tas de châteaux, ou donner des châteaux au roi un jour ou l'autre, s'il en a envie, etc. Et là-dedans, il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est que Corde est sauvé. Corde n'est pas démolie. Dans le traité de Paris, Corde apparaît comme une ville mise à part, dans l'ensemble du Midi, mise à part, et elle est confiée au roi pendant quelques années, ça durera pas d'ailleurs très longtemps, et elle va revenir entre les mains de Raymond VII. Et là, on a un mystère. Un mystère, je parle au sens des historiens, où on n'explique pas ça. Comment Raymond VII a-t-il réussi à convaincre Blanche de Castille et les seigneurs de l'île de France, etc., qu'il ne fallait pas détruire Corde, hein, alors que c'était pour lui l'essentiel. Je pense, je n'ai pas d'explication, bien sûr, mais je pense que, vu les relations qu'il y avait familiales, les relations familiales qu'il y avait entre lui et Blanche de Castille, avec l'appui, en plus de Garin, le père abbé de Grandselve, et il a réussi à montrer que cette construction de Corde n'était pas tournée vers l'attaque du suzerain, vers l'attaque des autres seigneurs, mais simplement une défense, un repli, une façon de résister. Et pour Blanche de Castille, c'était capital parce que ça, elle sortait d'une lutte énorme depuis la mort de son mari, et elle avait peur que le petit Louis IX, qui était le roi de France, mais qui pour l'instant était tout jeune, qui soit démoli, attaqué par des seigneurs trop puissants. Et donc, pour elle, c'était absolument capital de mettre à l'abri le pouvoir son fils Louis, de Louis IX. Et je suis porté à penser que Raymond VII a réussi, parce que ça a pris du temps, ça a pris plusieurs mois de discussions, lui avec d'autres, etc. Il a réussi à montrer que Corde n'était pas un château fort comme les autres. Corde était une place qui n'était pas militaire au sens d'un point de départ d'une attaque, mais qui était militaire au sens de résistance. On s'arrête une minute.
CFM.
CFM Radio.
CFM Corde.
Oh,
bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove, un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good night, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good night, my baby, it's wonderful.
Corde 2022, Michel Bonnet. Je disais donc que Corde tenait une place extrêmement importante dans la pensée de Raymond VII. On le voit avec ce traité de Paris en 1229, qui est extrêmement important pour Raymond VII, pour la vie et pour le Midi en général, pour le comté de Toulouse, etc. Et là, un trait tout à fait particulier, presque mystérieux, Corde n'est pas touché. Corde n'est pas abîmée, on ne détruit pas Corde, on laisse Corde en vie, on le laisse se développer. Donc ça montre la place importante pour Raymond VII que tenait Corde dans sa stratégie. Un deuxième point qui est aussi important que celui-là, c'est que Raymond VII, après le traité de Paris, va rester avec cette idée en tête de construire des lieux de convivialité et de résistance. Ce qui est sa définition de Corde, hein, des lieux de... Voilà, et ce que nous, aujourd'hui, on va appeler des bastides. Il a été, par le traité de Paris, évidemment, on se doutait qu'il allait continuer la lutte, et donc on a mis une clause dans le traité de Paris que si jamais il construisait des nouvelles cités... Il n'y aurait pas de remparts autour de ces cités. Il n'avait pas le droit de les fortifier. On pourrait imaginer que si Raymond VII était d'abord dans une ambiance militaire de combat, bon, ben ça voudrait dire fini, terminé. Mais pas du tout. Ça ne le dérange pas. Parce que il n'est pas justement dans cette optique militaire. Il est dans une autre optique, l'optique d'une population rassemblée dans un lieu précis où, dans la convivialité, elle va vivre et se développer et résister à la pression ambiante, etc., etc. Et ça, c'est une donnée capitale du reste de la vie de Raymond VII. Entre 1229 et sa mort, Raymond VII, ça fait, vous voyez le temps que ça fait, c'est 1250, hein, donc c'est vraiment... très peu de temps, et là, il va construire, il va démarrer, comme à l'image de Corde, une trentaine de cités. Il lance, il démarre quasiment une ville tous les ans, une bastide, si on peut dire, tous les ans. Vous voyez un peu le travail que ça représente, parce qu'il faut de l'argent, parce qu'il faut convaincre des gens, faut trouver des terrains, faut passer des accords avec des seigneurs, avec des couvents, avec des évêques, etc., etc. Et donc, c'est extrêmement important pour lui, et il ne va pas arrêter. Jusqu'à sa mort, il va continuer comme cela. Et donc, on voit comment cette reproduction du modèle Cordé va être un des points centraux de sa politique. Et on le voit au niveau de la convivialité, parce que elles sont toutes les bastides, c'est une caractéristique que même les historiens modernes reconnaissent, c'est qu'elles sont construites autour d'une place centrale, la place du marché, la place publique, la place commune. Et d'une façon ou d'une autre. Et pourquoi ? Parce que c'est là que les gens se rassemblent, c'est là qu'on peut faire des réunions, et c'est là que toutes les semaines, on peut faire le marché, et donc on échange. Il n'y a qu'à voir, nous ici à Cordes, la place du samedi pour les échanges, non seulement matériels, mais discussions, les nouvelles, etc. Et cette place centrale du marché, elle fabrique la vie sociale, elle est au cœur de la vie sociale d'une cité, exactement comme la place de la Halle, ici à Cordes, et c'est le centre de tout. Et il y a ce deuxième point, cette longue histoire des Bastides qui montre à quel point Cordes était importante pour Raymond VII. Et il y a une deuxième note qu'il est intéressant quand même, c'est que à partir du traité de Paris, Raymond VII prend comme bras droit, et il va devenir son alter ego, je dirais, et c'est Sicard Alamand. Or, Sicard Alamand, il a plusieurs particularités, c'est que premièrement, il est originaire de l'Albigeois, c'est-à-dire à l'époque, ce que on dit aujourd'hui, on dirait le pays cordé. Il a son château à Castelnau-de-Lévis. Hein. Et donc, il est vraiment du lieu, c'est vraiment un gars du pays cordé. Et il va travailler, bien sûr, il viendra souvent à Cordes, il va travailler à développer Cordes et le pays cordé. Et cela, il va le continuer parce qu'il va aider aussi Raymond VII à fonder des Bastides. Et il va participer à ce grand travail des Bastides, et il va s'y donner tellement que lorsque Raymond VII disparaîtra, Alphonse de Poitiers arrivera comme comte de Toulouse, il gardera Sicard Alamand et il gardera cette poussée pour la construction de nouvelles Bastides. Donc l'élan donné par Raymond VII à Cordes, il est relayé par Sicard Alamand, puis continué encore par Alphonse de Poitiers. Et ça montre la place centrale de Sicard Alamand dans la politique de Raymond VII, et ça montre à travers lui l'importance l'importance dans la vie de Raymond VII de Cordes, et de voir que ça continue. Et lorsque Alphonse de Poitiers disparaîtra et que le pays cordé et les seigneurs, les vassaux, les consuls qui sont à Cordes devront faire un serment d'allégeance au roi de France, c'est Sicard Alamand qui le recevra, qui le fera pour assurer donc ces serments de fidélité au roi de France. Donc vous voyez comment Cordes a tenu une place vraiment très importante, non seulement matériellement dans la vie de Raymond VII, mais également dans la pensée, dans ce qui sortait de lui-même. Et ces deux aspects-là, on y reviendra, faudra y revenir, mais cet aspect de convivialité, c'est-à-dire d'un dynamisme qui sort de la communauté à cause de la vie ensemble, ce dynamisme-là, qui est un dynamisme qui permet de résister, qui est fait pour résister aux attaques diverses, qu'elles soient économiques, politiques, militaires ou d'autres, de résister aux difficultés de la vie. Je pense que aujourd'hui, ça nous dit pas mal de choses. On est obligé de se mettre en situation de résistance. C'était Cordes 2022, Michel Bonnet. Pa koi voa
wallahi dunya, wallahi dunya ukubuzu.
Possessing something sweet. Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Well, it don't mean a thing. All you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, don't mean a thing if you ain't got that swing, boy. I said, don't mean a thing, and all you got to do is sing like la 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 la. Now it makes no difference if it's sweet or hot. Just to give that rhythm everything you got. Oh, don't mean a thing, boy, if it ain't got a that a swinger. Take it, chummy. Thank you.
CFM Cordes. Trois lettres, un esprit, le rock.
Load up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, myself assured. I know, a dirty word. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Always been and always will until the end. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid. I forget just what it takes, and yet I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find. Oh well, whatever, never mind. Hello, 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 hello. The empty hand of innocence transforms street of the sorrows and children of the wood, hounded, shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, and we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, haunted, paint sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten,